someone call my...
J'étais ce con d'adolescent, paumé agitant sa clope.
Ouais.
10 ans plus tard, je vois plus aucune magie dans l'alcool. On a tous été ravagés, à un moment ou un autre. Les artifices sont souvent les seuls calmants pour un môme. Délaisser sa maman, c'est moche. L'économie détruit la famille, reste près de la tienne sans chercher ce qu'il y a dans ses poches. J'ai trop de choses à dire et ça peut te paraître bête, mais tu sais j'essaye de me contenir et je rabaisse pas mes pères. Besoin de me calmer, grave les nerfs, des cauchemars en avalanche. Je dégueule mon son, ça m'arrange parce qu'il n'y a qu'avec ça que j'espère. Je vois mes proches se détruire, devrais-je applaudir ça? J'ai mal au crâne et ma respi me prédit une grosse crise d'asthme. J'ai plus la motive man, hanté par de maudits drames, devant des paradis aussi nasses. Franchin, y'a plus grand chose qui me calme. Tellement remonté, je vois cette ville crade de haut mec. J'enroule un dernier sur ce maudit gramme de pollen. Sans ça tout me casse les oreilles. À en péter les plombs, je suis devenu ce mec austère qui perd plus de temps à emmerder les cons. Je suis dégoûté, l'école m'a mis une carotte, le taf aussi. Si je veux que la guerre arrive plus vite, je voterai Sarkozy, quoique tous entre la veulent. Je ris jaune quand je les vois. Fais gaffe, tu feras descendre de sang froid si t'ouvres trop ta gueule. Je passe ma vie à donner à bouffer à des gros lards qui jouent mon salaire en une heure. Mais je me dis qu'il est jamais trop tard pour un réveil des masses. Parce qu'il y a qu'une seule vérité, pas mille. Personne n'a mérité cette merde, cette folie qui égaye les lâches. J'emmerde la loi, je continue tant qu'elle autorise le trading. Une pyramide dans le cul car ils utilisent tous le même signe. Je vais pas me foutre à poil pour une fausse gloire ou pour de l'estime. Exposer des courbes de belles filles, vanter un tout de prestige. J'ai pas de carrière, je maudis la tienne si t'en rêves. Je veux vivre la belle vie en scred avant qu'on dilapide ce qu'il en reste. Parfois tyrannique, puis je t'en perds. Remercie le miracle d'être vivant, mais l'horizon est terrifiant. Car je vois ce qui arrive, c'est l'enfer. La paraffine me renferme, je me déteste autant que vous parfois. Il faudrait pas que je mette la main sur la carabine du grand-père. Ça me désole de voir des gens contents de s'abrutir. Je suis qu'un ingrat pour Dieu quand je sors la bouteille pour me détruire. Je sors des couplets quand je suis réduit en miettes. Mon moral sans les pieds car trop souvent dans les chaussettes. Avoue que le délire en jette. Et ouais j'ai la gueule pas les sèches, mais je m'en bats les steaks. Ma force vient d'ailleurs, mais n'en trouve pas, je te parle pas des States. Je sors à peine de phrases, j'entends, mais il est taré ce mec. Tous les autres n'en pensent pas moins, mais se testent par respect. Tous ces putains d'avant me fatiguent, de Paris jusqu'au Qatari. Si j'ai les fesses propres, c'est grâce au bouquin de Jacques Attali. Ouais vu que je me torche avec, en sous-sol j'amorce la mèche direct. Balance ma merde discrète, qui fait que tes érudits ont l'air si bêtes. Décris-moi nos chances de survie dans un tel système.
Pas,
à peine
pas,
je t'ai posé la question, mon vieux, tu tergiverses. Ça me casse parce que je suis prévenu du danger. Qui aurait pu s'imaginer que mes rêves seraient si vite écroulés? Je fais le bilan, hargneusement, envie de vomir chaque instant. Si j'imagine ce qui nous attend, je pense pas qu'on vivra 50 ans. Le temps passé là, ça me casse parce que je suis prévenu du danger. Qui aurait pu s'imaginer que mes rêves seraient si vite écroulés? Je fais le bilan, hargneusement, envie de vomir chaque instant. Si j'imagine ce qui nous attend, je pense pas qu'on vivra 50 ans. Parce que picoler devient plus intéressant que lire un livre. Pas de quoi rigoler, les gosses à coups de couteau niquent l'instit. Parce que la thune est nocive, je m'en bats les couilles, je vise un smic. J'ai rien à perdre, je pile l'instru, dans mon cafard je puisse l'inspire.
B-E-A-T.
À l'écoute de RFI, il est 6h ici à Paris, 8h à Mascate, 7h30 en Téhéran. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Diane Berger. Bonjour Diane.
Bonjour Simon Bourtembourg, bonjour à toutes et tous. À la une, cet accord en cours de finalisation entre l'Iran et Oman sur le détroit d'Ormuz. Un accord sans Washington donc, mais Téhéran le précise d'emblée. La réouverture de cette voie maritime dépendra aussi de l'armée américaine. On fera le point sur ce que l'on sait avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. La stupeur en Allemagne après la découverte d'un drone chargé d'explosifs à l'aéroport de Leipzig. La menace change de dimension selon le ministre allemand de l'Intérieur. Les autorités algériennes ont arrêté le fondateur présumé de la DZ Mafia recherché en France. Et puis les fleuves européens au plus bas, la faute au manque de pluie, aux chaleurs, mais aussi aux neiges de l'hiver qui ont fondu trop tôt. Une série de facteurs tous liés au changement climatique. Des explosions signalées à nouveau dans le détroit d'Ormuz cette nuit. Le détroit toujours fermé pour l'instant au trafic maritime. Téhéran l'assure, les négociations avancent entre l'Iran et Oman pour mettre en place une nouvelle route maritime. Pas encore donc de réouverture à ce point, de ce passage stratégique. Mais un accord serait sur le point d'aboutir entre les deux pays riverains du détroit. Notre correspondant en Iran, Siavosh Ghazi.
Selon Téhéran, les négociations ont avancé, notamment pour délimiter les zones nationales de chacun des deux pays. La partie sud du détroit sera contrôlée par Oman et la partie nord, la partie la plus profonde, sera contrôlée par l'Iran. Téhéran qui contrôlera également le trafic maritime et donnera une partie des taxes et des droits de passage qui sera perçue pour les navires marchands et les pétroliers à Oman. Pour l'instant, Téhéran affirme que cet accord qui sera annoncé dans les prochaines heures ou les prochains jours ne signifie pas une réouverture du détroit d'Ormuz tant que les États-Unis ne mettront pas fin au blocus des ports iraniens et au blocus du trafic maritime en direction de l'Iran. Il n'y aura pas de réouverture du détroit d'Ormuz, donc cela signifie que le bras de fer entre l'Iran et les États-Unis continue toujours et que les États-Unis devront, selon Téhéran, cesser leur blocus contre Téhéran pour permettre la réouverture du détroit d'Ormuz.
Siavosh Ghazi à Téhéran pour RFI. L'accord n'est donc pas encore officialisé, beaucoup de questions sont toujours en suspens, mais ces premières annonces réjouissent déjà les marchés financiers. Plusieurs records ont été battus hier à la bourse. Aurélien Lux, analyste financier chez Galilée Asset Management, nous explique cet optimisme.
Ce qui a rassuré un peu les marchés, c'est les déclarations de Scott Bessent, donc le secrétaire américain du Trésor, qui est un peu la voix que les marchés aiment bien écouter. C'est un ancien de Wall Street et lui a déclaré que le détroit d'Ormuz serait réouvert bientôt. Ce qui a rassuré les marchés qui écoutent actuellement beaucoup plus Scott Bessent que Donald Trump. Et ce qui explique également que le pétrole a reculé sous la barre des 80 dollars. Donc ça explique justement cette bonne tenue des indices et un été qui se déroule plutôt bien pour les valeurs américaines, européennes et certaines valeurs asiatiques également.
L'analyse du spécialiste des marchés financiers Aurélien Lux, il répondait à Altine Lazage. Peut-être donc bientôt l'apaisement dans le détroit d'Ormuz après des semaines de tractations. En revanche, les négociations entre Israël et le Liban n'aboutissent pas à la fin des combats dans le sud du Liban. L'armée israélienne vient d'annoncer que deux de ses soldats ont été tués. Hier, elle a mené plusieurs bombardements dans cette région, des bombardements justifiés selon elle par une violation du cessez-le-feu par le Hezbollah. Le bilan de ces frappes est d'un mort et 11 blessés. Une nouvelle dimension de menace, ce sont les mots du ministre allemand de l'Intérieur après la découverte d'un drone hier à l'aéroport de Leipzig. Alexander Dobrindt évoque même un scénario de possible attaque hybride. L'engin chargé d'explosifs a été découvert par des employés de l'aéroport dans la nuit de mardi à mercredi. Les enquêteurs antiterroristes essayent maintenant de déterminer qui l'a placé là et comment il s'est introduit aussi près de la piste sans être repéré. L'aéroport allemand sert de plateforme logistique pour envoyer du matériel militaire vers l'Ukraine. Ce n'est pas la première fois que des drones non identifiés sont repérés dans des aéroports d'Europe. Il y a eu plusieurs cas l'an dernier. Mais un engin armé, c'est une première, souligne Léo Peria-Peigné, responsable du laboratoire de recherche sur la défense à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Là, on entre dans une nouvelle catégorie de malveillance qui visait très probablement donc les avions de fret ukrainiens qui se trouvaient sur cette base, vraisemblablement pour transporter de l'armement à destination de l'Ukraine. Maintenant, ce que ça dit surtout, et c'est surtout le côté extrêmement démuni de nos aéroports et nos infrastructures critiques face à ces menaces. Comme on est sur des objets qui sont assez petits, y compris en vol, et d'autant plus dangereuses, encore une fois, que les défenses contre ce genre de drone restent très limitées. Et que quand même le drone lui-même, armé ou non, ne détruira pas de lui-même un avion de transport. Il suffit d'attendre que l'appareil soit au décollage ou à l'atterrissage, qui sont des moments particulièrement critiques pour tout avion moderne, pour infliger des dommages à ce moment-là et provoquer une perte de contrôle et des dégâts considérables. Il va falloir équiper les sites sensibles du matériel approprié, du matériel qui en plus évolue assez rapidement, et surtout on n'aura jamais une sécurité qui sera éternelle, au moins tant que la guerre durera et que l'effort technologique se prolongera, ce qui est potentiellement particulièrement inquiétant.
Léo Péria-Peigné de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, interviewé par Mélissa Barra. Et la question de ces drones dans cette guerre, on y reviendra après ce journal, dans une dizaine de minutes, avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. Les autorités algériennes ont interpellé Mehdi Larribi, le fondateur présumé de la DZ Mafia, cette organisation qui domine le narcotrafic à Marseille, dans le sud de la France. L'arrestation a eu lieu il y a une quinzaine de jours et il a été placé depuis sous contrôle judiciaire. Clotilde Hazard, c'est le premier résultat concret de la reprise de la coopération sécuritaire entre la France et l'Algérie.
L'enquête était déjà au cœur des échanges entre la France et l'Algérie en février dernier, lors de la visite du ministre de l'Intérieur français Laurent Nunez à Alger. La procureure du nouveau parquet national anticriminalité organisée était venue pour parler précisément du cas de Mehdi Larribi, fondateur présumé de la DZ Mafia et réfugié en Algérie. Les contacts judiciaires entre les deux pays avaient alors repris sur ce dossier très sensible. Si la lutte contre le narcotrafic est prioritaire pour la France, elle l'est aussi pour les autorités algériennes qui font face à l'augmentation de la consommation de drogue dans le pays. Pour Kader Abderrahim, chercheur à l'IRIS, l'Algérie cherche aussi à protéger son image auprès de ses partenaires internationaux au-delà de la France.
Il n'est pas question que l'Algérie devienne la base arrière des narcotrafiquants en cavale. Comme ça, le message est clair, y compris et peut-être même surtout lorsqu'il s'agit de franco-algériens ou d'Algériens qui bénéficieraient d'un autre passeport. Il ne faut pas croire qu'ils sont en sécurité.
Prochaine étape, la constitution du dossier criminel de Mehdi Larribi. Tout comme la France, l'Algérie n'extrade pas ses nationaux. Le suspect est franco-algérien et il est donc inextradable. La France doit maintenant transmettre ses éléments d'enquête pour constituer ce dossier et permettre la mise en œuvre de poursuites par la justice algérienne.
La Clotilde Hazard, les records de température à nouveau battus en Autriche hier et en Slovaquie. Le mercure est passé au-dessus des 41 degrés Celsius. La canicule accable l'Europe centrale après déjà plusieurs vagues de chaleur dans les pays d'Europe de l'Ouest. Résultat, l'état des cours d'eau se dégrade. Le Rhin affiche son niveau le plus bas jamais enregistré et les pays le long du Danube doivent mettre à l'arrêt leurs centrales nucléaires puisqu'il n'y a plus assez d'eau pour refroidir les réacteurs. Alors comment en est-on arrivé à cette situation inédite? Élément de réponse avec Stéphanie Schuller.
L'assèchement historique des cours d'eau européens s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs. Il y a d'abord un manque de précipitations. Sur une large partie de l'Europe, il a plu trop peu pendant des semaines, voire des mois. Cette sécheresse est accompagnée par une série de vagues de chaleur extrêmes. Or, plus l'air est chaud, plus l'eau présente dans les sols, les plantes et les réservoirs, comme les lacs, s'évaporent. Il y a bien eu de la neige l'hiver dernier en montagne, mais elle a fondu trop tôt et n'a donc pas pu jouer son rôle de réserve pour les rivières et les fleuves au début de l'été. Et pour ne rien arranger, les nappes phréatiques, qui elles aussi alimentent habituellement les grands cours d'eau, sont à leur tour tombées à des niveaux trop bas. L'ensemble de ces phénomènes sont favorisés par le changement climatique. L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite et l'assèchement de ces cours d'eau ne peut pas être résolu à court terme. Les Européens ont mis des siècles à construire des infrastructures pour que l'eau qui tombe du ciel s'écoule le plus vite possible vers la mer. Aujourd'hui, ils doivent faire l'inverse et agir pour la garder le plus longtemps possible dans le paysage.
Le changement climatique également responsable des feux de forêt. Une étude publiée ce jeudi le confirme. Le réchauffement a multiplié par deux les risques d'incendie au Canada, le pays qui est confronté en ce moment à la pire saison des feux de son histoire. Une opposante en exil rentre au Venezuela, Dinora Figuera. Après plusieurs années en Espagne, l'ancienne députée va participer aux premières discussions avec le pouvoir en place sur une possible transition politique du pays. Elles sont censées commencer cette semaine à Caracas, sous la supervision de Washington, 8 mois après l'enlèvement de Nicolas Maduro par les États-Unis, le président déchu du Venezuela, aujourd'hui en prison à New York. Le chef de la junte birmane, devenu président de son pays, se rend à Bangkok aujourd'hui sur invitation du Premier ministre thaïlandais. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis son élection, contestée par les organisations de défense des droits humains. La guerre civile ne s'est jamais arrêtée dans son pays depuis son coup d'État en 2021. Les combats ont fait plus de 100 000 morts. Plus à l'ouest dans la région, 2 ans exactement après avoir fui en Inde, Sheikh Hasina, l'ex-première ministre du Bangladesh, se dit prête à rentrer. L'ancienne dirigeante, chassée du pouvoir par un grand soulèvement étudiant, a pourtant été condamnée à mort par contumace dans son pays. Jugée coupable de crimes contre l'humanité, accusée d'avoir causé la mort de 1400 personnes en réprimant violemment les manifestations. Elle s'est exprimée hier lors d'une conférence à New Delhi où l'on retrouve notre correspondant Abdullah Erali.
2 ans après sa fuite du Bangladesh, Sheikh Hasina a repris la parole publiquement depuis New Delhi. Au club des correspondants de presse, l'ancienne première ministre s'est exprimée uniquement en audio devant des cadres de son parti venus assister à cette conférence. Elle affirme vouloir rentrer malgré le sort qui l'attend.
Je retournerai auprès de mon peuple. Je serai peut-être envoyé en prison, mais la peur ne dictera pas mon devoir envers le peuple. Il y a bien longtemps que ma vie dépasse les simples calculs de sécurité personnelle.
Celle qui a gouverné le pays pendant 20 ans conteste sa chute et dénonce un complot politique derrière la révolte étudiante de 2024. Elle annonce vouloir rentrer en décembre, le mois symbole de la libération du pays.
Le mois de décembre est celui de notre victoire. Je veux donc rentrer en décembre. Le Bangladesh a besoin de réconciliation. Ce que fera le gouvernement, c'est son affaire. J'ai décidé d'y aller, je vais y aller. Et quand viendra le moment, vous saurez tout.
Réfugié en Inde, Sheikh Hasina salue un pays ami. New Delhi, de son côté, qualifie cette conférence d'événement strictement privé. Irrité, les autorités bangladaises, elles, dénoncent une prise de parole insultante de Sheikh Hasina, réclament son extradition et estiment que cette initiative fragilise les relations avec l'Inde. Abdullah Eradi, New Delhi, RFI.
La direction de la FIFA tente d'éteindre les braises. La Fédération internationale de football plaide des erreurs. Elle présente ses excuses à l'issue d'une réunion de crise au Maroc hier soir. Après ce projet, vendre des parts de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. La FIFA réaffirme aussi son plein soutien à son président Gianni Infantino. Critiqué par de très nombreuses fédérations nationales et continentales, le projet, lui, est abandonné. C'est la fin de ce journal. Il est maintenant 4h13 en temps universel. Mais on reste ensemble encore une quinzaine de minutes. Le retour des actualités africaines, ce sera à 4h30, temps universel avec Nemo en piste. Avant cela, direction Berlin, la capitale allemande. Des promoteurs immobiliers veulent bâtir des bureaux et des logements sur le bunker d'Adolf Hitler, celui dans lequel l'ancien chef du régime nazi a passé ses derniers jours. Des historiens et des experts s'opposent au projet. Ils proposent à la place de faire du lieu un musée sur la Seconde Guerre mondiale. La découverte d'un drone muni d'une charge explosive à l'aéroport de Leipzig nous le confirme. Les conflits modernes se jouent de plus en plus par drone. Kiev et Moscou musclent leurs moyens de production. On appellera notre correspondant en Russie pour faire le point sur ces enjeux. Wéré Wéré Li Qing expose à la Biennale de Venise. La fondatrice du village d'art Kiyim Bok à Abidjan sera l'invitée culturelle de RFI. Et puis on retrouvera comme chaque matin Caroline Paré. Ce jeudi, elle nous parle d'un nouveau métier du soin, biographe hospitalier. Faut-il protéger des lieux majeurs du pouvoir nazi ? En Allemagne, le débat est relancé. Le grand bunker d'Adolf Hitler à Berlin est menacé par un projet immobilier. C'est l'un des derniers vestiges de cette époque. La plupart des bâtiments ont disparu après la Seconde Guerre mondiale. Et des historiens et des experts se mobilisent pour conserver le lieu et en faire un musée. Reportage de Pascal Thibault.
Le seul élément qui vous indique que le bunker de Hitler était présent ici, c'est ce panneau. Donc c'est ici qu'il va se donner la mort. Il se rend à l'évidence à un moment donné, le 30 avril 1945.
Vincent Simon se tient devant un panneau qui donne quelques informations sur l'ancien bunker de Hitler. Il faut beaucoup d'imagination pour se représenter juste à côté la gigantesque nouvelle chancellerie du Führer qui faisait plus de 400 mètres de long. Depuis la chute du mur, le no man's land qui séparait Berlin à cet endroit a été complètement reconstruit. Vincent Simon.
Je sens que les gens l'attendent toujours. Puis dès qu'on arrive, c'est « Ah bon ?» Ils en ont fait un parking.
Cet adolescent, parmi les Français que guide Vincent Simon, partage aussi ce sentiment.
Comme il n'y a plus grand-chose de visible, après c'est sûr que ça fait un peu bizarre de dire qu'il
y a... talk so much no more. Always painting the picture twice to be sure. Stuff a sock in your mouth, baby. Put a cap on it. Stuff a sock in your mouth, baby. The silence teases me far away. I see articulates. Because of violence I see articulates. Mental chatter backfires on me.
quartier, peu importe quoi que ce soit. Moi, je vois une radio dans ma rue, je vais ouvrir ma fenêtre tous les jours pour voir ce qui s'y passe. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. C'est l'aberration démocratique, ça. Vous comprenez ? À force de vouloir tout le monde va parler. Or, malheureusement, parler, c'est un art.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principeactif.net.
Très bien, très bien. Nous allons essayer de ne pas lambiner, ne pas tergiverser, ne pas nous égarer.
Principe Actif, le mix des cultures.
Ich kann nicht, was ich kann machen. Na tamboli, bi tambola, tambola. Il est temps pour moi de rencontrer mes ancêtres. Où que ma famille, in Africa, in Africa, in Africa. Bind me up. Nakosonga, Nakosonga. Ich weiß nicht, wann ich kann dir sagen. Na Tamboli, die Tambola, Tambola, na Mokilio. Il est temps pour moi de rencontrer mes ancêtres. Où que ma famille in Africa. Ma famille, mein Kinder, mein Großvater, Nakuzunga, Nakuzunga.
Laisse-moi, intéresse-moi, je t'explique mon avis en quelques phrases, je te résume ce que j'ai appris, je dois être raisonnable avec le shit et la tisse, sinon je perds le cap. Donc laisse-moi.
On vit nos vies à fond, souvent dans l'excès. On rêve de pouvoir dire, it's a lovely day. On se tue dans la drogue et tous ses méfaits. Car on a tous un vice et tout le monde le sait.
Tous sont perdus dans la taille ou dans la verdure. À croire qu'ils ont du temps à perdre ou trop d'amertume dans la tête. On ne trouve pas d'air pur,